Vous écoutez
RMC. RMC. Les GG contre-attaque.
Alors, quatre propositions de débat ce matin de votre part. Les GG, malheureusement, franchement, ça n'a pas recueilli le score escompté. 15% seulement à la dernière place pour la safety car dans le vélo.
C'est bien dommage.
Cyclisme. Fois que vraiment un débat vélo m'excite un petit peu, bah oui, on le fera pendant la pub.
J'étais parti, hein, j'avais de l'argument.
Ouais, bravo, tout cas, Jérôme, on le refera plus tard. 18% à la troisième place pour les tensions en Formule 1. Bravo, mon cher Pascal, tu es donc troisième. Deuxième, Sarah, tu n'as pas pris la porte comme hier. C'est passé un rien, 30% pour toi avec le jubilé de Nadal à Roland. Faut-il absolument l'organiser? C'était ta question. 37%, c'est une victoire de Cyril Linette avec les stades à Paris. Je n'en peux plus, il faut siffler la fin de la récré. Cyril, tu peux évidemment exposer ta problématique.
Ben oui, parce qu'il y a plusieurs sujets qui se juxtaposent. D'abord, on vient d'en parler, le Paris Football Club donc, qui va chercher un stade, qui va peut-être essayer de jouer à Jambouin, donc à côté du Parc des Princes, en alternance avec le Stade français et délaisser son stade de Charletti. On a bien sûr les propos cette semaine assez définitifs. Alors, il y a sans doute une part de bluff de Nasser El Khelaifi pour dire le Parc des Princes, c'est fini pour nous. On va construire un PSG Land de 80 à 90 000 places en banlieue. Ce qui, on le sait tous, n'a absolument aucune chance de réussir. Si on connaît bien la géographie parisienne, envoyer 80-90 000 personnes un dimanche soir de novembre en grande banlieue pour aller voir un match, ça ne fonctionnera pas. Et puis par ailleurs, on a le Stade de France dont on joue aujourd'hui le renouvellement de la concession, sachant que l'État ne mettra plus au pot, hein, donc il va déléguer la concession à 100% à l'un des deux acteurs candidats. Et on entend la Fédération française de foot dire bah, nous, on préfère jouer en province parce que finalement on gagne plus d'argent, et la Fédération française de rugby dire à peu près la même chose, sachant qu'ils voulaient aussi construire leur propre stade. Donc je dis, est-ce qu'à un moment on peut pas siffler la fin de la récréation et peut-être se dire par exemple qu'il va y avoir deux clubs à Paris et il y a deux stades qui sont construits aujourd'hui, le Parc des Princes et le Stade de France, peut-être pourrait-il en prendre un chacun. Soit le PSG va dans un vrai stade de 80 000 places qui est prêt, l'habille comme il le veut, ils ont les moyens, ils font un stade magnifique au Stade de France et avec un stade accessible en métro. C'est pas à 30 km de Paris, le Stade de France, c'est accessible. Il y a même aujourd'hui de nouvelles stations qui ont été construites depuis les Jeux Olympiques. Et le Parc des Princes va au Stade de France et fera 60 000, 70 000, le PFC. 80 000 pour le PSG va au Stade de France et le PFC. Et le PFC. Non, mais si on se projette et le PFC plus tard va au Parc des Princes qui est plus petit, soit le PFC a un vrai projet, bah, ils vont jouer dans un Stade de France, ils vont fermer l'étage supérieur et le Stade de France à 30 000, ils peuvent démarrer avec, mais au moins il y a une logique, il y a deux stade à Paris, il y en a qu'un qui est occupé, il va y avoir deux clubs. La logique serait peut-être d'essayer d'utiliser ces deux clubs-là plutôt que de partir dans des sujets de chantage, de concession qui finissent par coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tout le monde.
Ok, comment vous réagissez à ça, Jérôme ?
Moi, je suis 200% en phase avec Cyril, il faut se mettre d'accord. Moi, ce qui me gêne en plus dans tout ça, c'est que tu sens que c'est très politique, une fois de plus. Une fois de plus, c'est il faut contre-attaquer l'idée que la ville ne veut pas vendre le parc et que donc le Paris Saint-Germain, on vous menace de partir et il faut revenir à la table des négociations en faisant rentrer la famille Arnaud. Pour nous, on va jouer dans un stade à Paris. Évidemment qu'il y a assez de stades à Paris. Et évidemment que dans le contexte actuel, avec du sport, mais aussi un contexte global économique où les gens... C'est quand même difficile en ce moment. On n'est pas dans la meilleure période. Hein. Moi, je suis commerçant, je le constate. De parler de construire des stades à tout va dans une ville où déjà il y a ce qu'il faut, à des gens qui sont comme ça, et pour faire venir des gens qui n'ont pas les moyens. Parce que comme tu dis, 80, 90 000, c'est pas les gens des beaux quartiers qui vont aller dans ce stade. Le football reste un sport populaire. Les faire aller là-bas, c'est pas possible.
Non.
Tu leur parles de ça et tu leur dis, vous êtes dans le dur, eh ben, on va vous mettre encore plus dans le dur. Nous, on va construire des stades. Je pense que c'est un peu même presque arrogant cette position-là.
En Angleterre, chaque club a son stade. Ok, et même les équipes nationales de foot et de rugby, elles ont des stades qui ne servent qu'à eux. Twickenham et Wembley. Mais enfin, ça n'a rien à voir. En Italie, par exemple, il y a un principe de réalité. La Lazio et la Roma jouent dans le même stade et l'équipe nationale aussi. Le Milan et l'Inter jouent dans le même stade et l'équipe nationale aussi. Donc il y a quand même des principes de
réalité. C'est le meilleur exemple. L'Inter et le Milan jouent à San Siro.
Oui, localisent beaucoup, effectivement.
L'Inter et le Milan jouent à San Siro. À aucun moment, ces deux clubs-là qui sont des très grands clubs historiques, qui est le Paris Saint-Germain par rapport à l'AC Milan ou l'Inter Milan? Qui est le Paris FC?
Non, mais le PSG a une spécificité, c'est que le PSG, c'est le club en Europe qui génère le plus de recettes jour de match. 153 millions d'euros. Non, mais c'est très impressionnant. C'est plus que le Real Madrid et Manchester City. Donc, de ce point de vue-là, la réussite du Paris Saint-Germain, elle est au parc. Elle est considérable.
Il y a des recettes pour que ça fonctionne. Et ces recettes-là, ils sont en train de les. Enfin, ils ne se rendent pas compte que ces recettes-là, ils ne vont pas pouvoir les déplacer à 30 ou 40 kilomètres. On est bien d'accord.
Ce que je veux dire, c'est que déjà, ils gagnent beaucoup d'argent au Parc des Princes. Peut-être qu'ils peuvent gagner encore un peu plus au Stade de France. Sur les montants, oui, absolument.
Bah, non, je parle pas des montants. Moi, je parle de l'échec probable, comme tu le dis, d'un nouveau stade à Paris en banlieue. Paris Saint-Germain.
Déjà, Pascal, il y a combien de temps ça va prendre? Il va te falloir entre
les autorisations permis de construire en France
entre 8 et 10 ans. Tu vois, entre 8 et 10 ans. Où on sera le sport, l'entertainment, l'industrie à ce moment-là, dans 8 ou 10 ans?
Ce qui me semble, au travers de ce que El Khalafi dit, il dit qu'il va le construire, le stade. Et ils vont construire avec leurs fonds privés, donc
ils mettront 8 à 10 ans.
Par rapport à la conjoncture, il est où l'obstacle? C'est des fonds privés qui vont financer. Donc s'il a envie de faire un stade pour réellement se démarquer, je ne pense pas que ça soit une mauvaise idée. Voilà, c'est un avis.
Et tu sais, le tennis, je vais juste faire une petite. Le tennis, Roland Garros a étudié effectivement de sortir de Paris intramuros pour avoir son stade et avoir plus de place et générer plus d'argent. Et ils se sont dit, il faut peut-être qu'on garde parce qu'en fait, les gens ne vont pas aller aussi loin.
Mais non.
Voilà. Okay. Et ils ont pris cette décision et jusqu'à aujourd'hui, elle se confirme.
Oui. Merci pour ce débat. En tout cas, Cyril, c'est vrai qu'on en a souvent parlé des stades à Paris, mais là, avec la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, c'était important d'en dire un mot dans cette émission. Arnaud Souk, en Autriche pour le deuxième slalom de la saison. En est-on lors de cette première manche?
Et des bonnes nouvelles pour les Français, puisque Clément Noël, qui s'était lancé en deuxième position et qui avait réalisé vraiment une très très bonne manche, est toujours en tête, 88 centièmes d'avance sur le Norvégien Atleli McGrath. Et la troisième place pour Steven Amier, 94 centièmes de retard, lui qui avait terminé sixième du slalom de Lévis. Il y a quelques skieurs, notamment Henrik Kristoffersen, qui sont pourtant parmi les favoris et qui sont quand même déjà pointés à quasiment 2 secondes, 1 seconde 76 pour être précis. Donc nos deux Français qui vraiment occupent la première et la troisième place et qui pourront tout à l'heure prétendre à une victoire finale sur ce slalom de Gurgel. Le début de la deuxième manche, c'est à 13h30.
Et on sera là avec toi pour la suivre, évidemment, cette deuxième manche. Merci beaucoup, Arnaud Souk. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler du 15 de France. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.